la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous et exprimez-vous. Vous êtes les bienvenus en direct sur l'antenne de RFI, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Avant de passer au standard, je vous informe dès maintenant que lundi, nous serons en émission spéciale. Vous pourrez, durant près d'une heure, nous poser toutes vos questions sur l'Iran. Le pays fêtera le 40e anniversaire de la révolution islamique. C'est vrai qu'on reçoit régulièrement, très souvent d'ailleurs, des questions sur l'Iran. Eh bien, l'occasion est rêvée. Cet anniversaire est rêvé pour essayer de comprendre durant une heure, l'Iran d'hier, l'Iran d'aujourd'hui, toutes vos questions sur tous les sujets politiques, économiques, sur les sanctions occidentales, le rôle de l'Iran dans les tensions régionales, des questions également sur le modèle de société iranien. 33 9 693 693 70, appelez-nous. On a déjà posté sur le compte WhatsApp de l'émission le fait que nous préparions cette émission spéciale et nous avons déjà reçu beaucoup de questions, donc je vois que le sujet ne vous laisse pas indifférent. La Libre Antenne, donc, pour commenter l'actualité de votre choix. Là aussi, vous êtes nombreux à souhaiter réagir au raid de l'aviation française au Tchad. Bonjour Carmel.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à N'Djamena. Une série de frappes aériennes menées entre dimanche et mercredi visant une colonne de l'Union des Forces de la Résistance, ce groupe rebelle. Vous êtes vent debout, vous, Carmel. Vous ne comprenez pas la réaction de la France.
Je ne comprends pas la réaction de la France, d'autant plus que c'est une affaire tchado-tchadienne. La mission de depuis la nuit des temps, le Tchad a toujours sollicité la France, et la France a été intervenue dans les conflits internes. Mais cette fois-ci, notre incompréhension est totale, d'autant plus que c'est une affaire tchado-tchadienne. Et quand la France doit jouer plutôt la médiation et non pas intervenir, c'est une rébellion. Le débat public et l'espace démocratique est limité. Oui. Et quand Macron était venu, il n'a pas reçu la société civile et moins encore l'opposition politique.
Oui. Donc, vous dites, Carmel, que c'est une affaire interne au Tchad. Le ministre tchadien des armées, que vous avez certainement entendu sur notre antenne, qualifie ces hommes de l'UFR de mercenaires, de terroristes.
Non, j'ai dit non. À notre connaissance, à ce jour, personne n'a prouvé. Les Timan, Monsieur Timan était neveu de Déby. Mm-hmm. Timan et Pam Erdimi, ils ont combattu Déby. Ce sont ses neveux, ils ont servi à la présidence. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont des rebelles et ils sont des terroristes. Ils sont des rebelles, oui, mais ils ne sont pas des terroristes. Et quand ce sont des rebelles, partout, on entend d'avoir les négociations. Et quand les voies de négociation sont épuisées, c'est en ce moment qu'on utilise peut-être la force. Mais la force, si le Tchad est allé combattre au Mali, il n'y a pas de raison que le Tchad passe appel à une puissance, qu'elle soit ex-puissance coloniale, pour intervenir dans une affaire interne. Mm. Et là, il ne faut pas qu'on nous parle encore de patriotisme, la souveraineté.
Donc
si
pour vous,
des groupes terroristes, on n'a pas d'objection. Si c'est des groupes terroristes, on n'a pas d'objection. Oui. Les terroristes doivent être combattus jusqu'à leur dernier retranchement. Mais quand c'est des rebelles et que le jeu démocratique est bloqué, quand l'espace démocratique n'est pas ouvert, eh bien les gens n'ont pas autre possibilité que de recourir aux armes.
Que de prendre les armes. On sait que l'objectif de ce groupe rebelle, l'Union des Forces de la Résistance, est de renverser le président Déby. Interrogé par RFI, le président de la commission défense de l'Assemblée nationale française disait ce matin « Il est préférable d'arrêter ces rebelles venant de l'extérieur plutôt que de risquer de déstabiliser le Tchad au moment où le Tchad est sur de nombreux fronts terroristes ». Autrement dit, ça veut dire qu'il faut garantir la stabilité du Tchad. C'est ça que soulevait donc le président de la commission défense de l'Assemblée nationale française. Olivier, vous êtes également dans la capitale tchadienne. Bonjour.
Bonjour Juan.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien et vous-même ?
Très très bien, merci beaucoup. Vous souhaitiez également réagir aux frappes françaises dans votre pays ?
Oui, effectivement. Je pense que je ne suis pas du côté de ceux qui sont en train de condamner cette frappe française. Je crois que le Tchad est un pays qui maintenant essaie de retrouver la paix et les rebelles sont actuellement, à mon avis, malvenus parce que la guerre va encore ravager ce pays. Ils ne vont pas prendre le pouvoir pacifiquement par la guerre, donc la guerre va ravager le pays et ça, il y aura encore de lourds tributs à payer. Donc je pense que, et d'un autre côté, ils sont en même temps en train d'ouvrir un boulevard pour les terroristes parce qu'en voulant prendre le pouvoir, ils vont ouvrir des chemins pour les terroristes. Donc je pense que l'intervention de la France se justifie du moment où aussi il y a une coopération, un accord de coopération militaire entre le Tchad et la France. Nous ne savons pas jusqu'à ce jour qu'est-ce que contient cet accord de coopération. Donc je pense qu'il peut être extrêmement prudent.
Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les moyens de la force française Barkhane qui ont été utilisés pour bombarder cette colonne rebelle. Mais c'est la France qui est intervenue, ce n'est pas Barkhane. Vous voyez, il y a une nuance. Et les forces armées françaises jouent sur cette nuance. Donc pour vous, on ne peut pas parler d'ingérence de la France ces derniers jours.
Non, absolument pas. Il y a un proverbe qui dit que quand votre maison est en train d'être incendiée, vous ne pouvez pas avoir honte que votre belle-mère entre dans votre chambre. À partir de ce moment, je pense que c'est des rebelles, c'est des bandits simplement. Tout le temps qu'ils ont besoin d'argent, ils se lèvent, ils viennent déranger et après ils veulent qu'on s'assoie pour négocier avec eux pour avoir de l'argent. Donc je pense qu'à partir de ce moment, l'intervention française se justifie. On ne peut pas dire que c'est une ingérence.
En tout cas, le sujet fait réagir au Tchad et il fait réagir également en France. D'ailleurs, un débat public doit avoir lieu à l'Assemblée nationale à ce sujet. La semaine prochaine, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Carmel également, qui nous appelait de N'Djamena, capitale tchadienne. 9h46 ici à Paris. On va revenir sur la polémique suscitée ces derniers jours par les propos du ministre camerounais de la Justice. Bonjour Myriam.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Douala, au Cameroun. Vous nous avez contacté sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte WhatsApp de l'émission. Je rappelle que dimanche, lors d'une émission sur la télévision nationale, le ministre camerounais de la Justice a fait un parallèle entre la situation au Cameroun, les manifestations qui sont lancées à l'appel de l'opposant Maurice Komto, qui conteste les résultats de la présidentielle du mois d'août. Donc ces manifestations, cette contestation est l'Allemagne nazie. Je ne vais pas reprendre tous ces propos puisque la déclaration est un peu longue, mais enfin il a dit, en Allemagne il y avait un peuple qui était très riche et qui avait tous les leviers économiques, c'était les juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que les peuples allemands se sentaient un peu frustrés, puis un jour est venu au pouvoir Hitler qui a mis ses populations dans des chambres à gaz. Il faut que les gens instruits comme Komto, donc l'opposant camerounais, puissent savoir où ils amènent leur peuple, et il conclut en disant « Je dis à mes frères Bamileke qu'il faut arrêter, ils sont en train de se faire haïr. » Tous les généraux à l'ambassade israélienne au Cameroun, et vous en tant que citoyenne, vous êtes également scandalisée par ces propos.
Vraiment scandalisée, Juan. C'est même peu dit de dire que je suis scandalisée. Parce que deux choses. Déjà, les propos sont effroyables et avec la stigmatisation du peuple bamileke. Et surtout, n'est-ce pas, le silence du gouvernement qui ne frappe pas du poing sur la table pour arrêter, enfin, ou du moins recadrer ces médias, ces radios qui sont à la solde du gouvernement et qui font de l'exacerbation du tribalisme leur fonds de commerce.
Oui. C'est-à-dire que attendez, pour que les choses soient claires, Myriam, c'est que les propos ont été condamnés par l'ambassade d'Israël, ils ont été qualifiés d'antisémites. Rapidement, le gouvernement camerounais a publié un communiqué pour déplorer les propos inappropriés tenus à titre personnel par le ministre. Donc il y a eu donc des excuses de la part du gouvernement camerounais à l'encontre de l'ambassade d'Israël, mais pas un mot s'agissant des Bamileke. Et c'est surtout ça qui vous choque. C'est bien ça si je comprends, hein?
Exactement, Juan. Justement, aucune excuse. Bon, disons que peut-être en présentant des excuses au peuple bamileke, peut-être le gouvernement aurait fait aurait perdu la face. Mais tout au moins, recadrer tous ces médias, toutes ces radios qui sont à la solde du gouvernement pour tirer, vraiment pour promouvoir, n'est-ce pas, la haine anti-bamileke. C'est ça qui est choquant, ce silence qu'on soupçonne complice, là.
Oui. Ça veut dire que qui ne dit rien consent, vous avez l'impression qu'effectivement il y a une volonté à partir de maintenant de stigmatiser la communauté Bamileke. Je précise pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité camerounaise, c'est que Maurice Kamto, donc l'opposant qui conteste les résultats de la présidentielle du mois d'octobre et qui est détenu, emprisonné depuis une semaine maintenant, est de l'ethnie Bamileke.
Exactement, Juan. Donc le citoyen lambda que je suis comprend le jeu politicien malsain. Souvenez-vous que les propos effroyables du ministre interviennent au lendemain de la neutralisation des leaders du MRC, le mouvement du professeur Maurice Kamto. Et alors, la tête étant neutralisée, il faut donc neutraliser la base, il faut déstabiliser donc la base. Donc ça procède, n'est-ce pas, dans un programme de destruction, de destruction du MRC, qui est le parti du professeur Maurice Kamto.
Bien. Myriam, merci. Merci de nous avoir interpellés sur cette actualité. Vous êtes à Douala. Rappelez-nous, quand vous le souhaitez, évidemment, soit comme vous l'avez fait la dernière fois par le compte WhatsApp de l'émission, sinon directement au standard 339 693 693 70. C'est la libre antenne. Vous êtes nombreux depuis mercredi à souhaiter commenter cet accord de paix signé en Centrafrique entre le gouvernement et les groupes armés qui contrôlent 80% du pays. Bonjour Saint John.
Bonjour.
Alors, on connaît finalement le contenu de cet accord. Il a été rendu public hier. RFI a pu s'en procurer une copie. Vous êtes soulagé, comme j'imagine de nombreux Centrafricains, soulagé car le mot amnistie ne figure pas dans ce document et on savait que les groupes armés avaient fait de l'amnistie un préalable à la paix. Donc ce matin, c'est un ouf de soulagement pour vous.
Il y a un ouf de soulagement puisque l'essentiel a été préservé, c'est-à-dire que l'amnistie ne leur a pas été accordée. Le gouvernement dont ils réclamaient la primature ne leur a pas été accordé non plus. Mais l'autre problème, c'est l'impunité. On se pose réellement des questions sur la mise en place de cette fameuse commission qui doit statuer sur le sort des rebelles. Alors que moi, je pense, pour ma part, en tant que citoyen lambda, je pense que tous les crimes qui ont été perpétrés ont déjà été actés par la communauté internationale, par la CPI et même par la justice centrafricaine. Alors, je me pose la question aujourd'hui. Pourquoi créer une telle commission pour voir qui est coupable et qui n'est pas coupable, alors que je pense que tous les crimes ont été répertoriés? Et nous connaissons les auteurs de ces crimes-là.
Donc c'est une façon pour vous quoi de gagner du temps, le fait de créer cette commission inclusive qui ensuite permettra de créer une commission vérité et réconciliation. Vous ne comprenez pas où veulent en venir à la fois les groupes rebelles et le gouvernement?
Non, nous ne comprenons pas. Il y a un flou total qui réside sur cette commission, sur les tenants et les aboutissants de cette commission.
Effectivement. En tout cas, s'agissant du gouvernement, effectivement, il va y avoir un gouvernement inclusif. On savait que les groupes armés réclamaient le poste de Premier ministre. Le document ne dit pas si le Premier ministre sera issu des groupes armés. Hein. Donc, contrairement à ce que vous affirmiez il y a quelques instants, John, c'était une petite précision. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous avons également Nicole. Oui, bonjour Nicole.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes également soulagé après avoir pris connaissance d'une partie de l'accord signé cette semaine dans votre pays?
Oui, c'est vraiment un soulagement parce que le mot amnistie et ce mot qui faisait peur à tout le monde n'est pas figuré dans l'accord. Donc pour ça, c'est un soulagement pour tous, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu de réaction de la part du peuple centrafricain. C'est déjà quelque chose de gagné pour nous. Espérons que ça sera plus appliqué, quoi.
Oui, c'est-à-dire que vous avez confiance dans ce mécanisme de commission, vérité, réconciliation. Ça vous semble une bonne option?
Bon, je suis simplement optimiste parce que c'est depuis 2012 que les accords ont été signés et tous ces accords précédents n'ont pas eu d'effet. Donc, je suis simplement optimiste que cela puisse s'appliquer.
Oui, il s'agit du 8e accord conclu depuis 2012. Vous êtes optimiste, beaucoup sont pessimistes. Hein. Beaucoup se disent, bon, jusqu'à présent, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi celui-ci, pourquoi cet accord sera le bon? Merci Nicole d'avoir appelé. Merci beaucoup de ce petit commentaire. Saint John également, bonne journée à Bangui. Je vous le disais en début d'émission, nous avons des réactions sur le verdict concernant le procès ICC Service au Bénin. ICC Service, c'est cette affaire qu'on appelle l'affaire Madoff à la béninoise. Des dizaines de milliers de Béninois ont déposé leurs économies il y a quelques années au sein de cet établissement ICC Service. Ils ont mis toutes leurs économies et puis un beau jour, eh bien cette structure s'est retrouvée en cessation de paiement et des dizaines de milliers de Béninois ont tout perdu. Ils ont tout perdu, toutes leurs économies. Le procès a commencé il y a quelques semaines et on connaît donc le verdict depuis 48 heures. Qui avons-nous au standard pour en parler? Je crois Mathieu. Mathieu est là, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Êtes-vous satisfait du verdict? Je rappelle que le président, directeur général, le directeur général et une autre personne ont été condamnés à 10 ans de prison ferme.
Satisfaction par rapport à l'issue du verdict, non. Parce que ceux qui s'en sortent, comme ce sont les accusés, ils ont été condamnés à une peine dérisoire, 10 ans d'emprisonnement, alors que ils ont empoché près de 150 milliards de francs CFA. Et ils sortiront bientôt, même si leurs biens et avoirs sont confisqués ou saisis.
Ouais, quand vous dites qu'ils sortiront, excusez-moi Mathieu, quand vous dites qu'ils sortiront bientôt, c'est que les trois personnes en question ont déjà passé près de 9 ans en prison. Ils ont été condamnés à 10, donc ça veut dire qu'il ne leur reste qu'un an, un an et quelques mois encore.
Bien sûr, dans un an, quelques mois, ils sortiront. Mmh. Maintenant, le problème que je pose, c'est que les spoliés sont abandonnés à leur trésor. Étant donné que tous ne se sont pas constitués partie civile. Tous les spoliés ne se sont pas constitués partie civile. Et par ailleurs, les fonds qui sont disponibles atteignent au plus le milliard. Alors qu'il est mis à leur charge près de 150 milliards.
Oui, c'est-à-dire
les
que...
Les biens immobiliers dont on nous parle, le recensement a été contesté pendant le procès.
Oui. Non mais je comprends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement seront remboursés que les victimes qui se sont portées partie civile, c'est-à-dire que beaucoup ne seront jamais remboursées et celles qui espèrent être remboursées ne savent pas comment elles le seront un jour, puisque pour l'instant les saisies effectuées ici et là par le gouvernement, par la justice ne permettent pas d'arriver à cette somme de 150 milliards de francs CFA détournés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mathieu, qu'il va y avoir encore des contestations dans les prochaines semaines à cause de cette affaire?
Bien sûr, mais pendant le procès, ils ont déjà contesté. Les accusés ont contesté le recensement qui a été fait. Mmh. Et puis, c'était bien été différent au moment où ils sont en prison. C'est dit qu'aujourd'hui, que même si on réalise les biens qui sont disponibles, on ne peut jamais atteindre le montant mis à leur charge.
Ouais. On va suivre de près, évidemment, ce dossier qui nous intéresse. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir interpellés sur le procès ICC Service. On termine avec vous, Moussa.
Je vais tromper de numéro, vous ne m'aviez pas appelé.
Moussa, on vous a appelé, si. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Il est en train de parler avec le technicien. Moussa qui souhaitait réagir au retour hier, après 2 ans d'absence de l'ancien président Abdoulaye Wad. Il est arrivé à Dakar, Abdoulaye Wad, qui a d'ailleurs improvisé un discours qui a duré près d'une heure. Et il est rentré au Sénégal pour tenter de faire en sorte que l'élection présidentielle ne se déroule pas comme prévu le 24 février. Sera-t-il entendu? Sera-t-il suivi par le reste de l'opposition? Rien n'est moins sûr, hein, puisque les autres candidats, eux, sont bel et bien convaincus qu'il faut aller à l'élection et qu'il n'est pas question de boycotter. On en parlera la semaine prochaine. Je vous rappelle que lundi, donc, émission spéciale consacrée à l'Iran à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution islamique. Vous nous posez toutes vos questions, tout ce que vous souhaitez comprendre, savoir sur l'Iran, la situation politique, économique, géopolitique, l'évolution de la société iranienne. Toutes vos questions dès maintenant au 33 9 693 693 70. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine à l'écoute des RFI.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA.
Chantal Leroux est avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour Juan. Priorité.